Gasde.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 26 avril 2016, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans exactement a eu lieu la plus grande catastrophe nucléaire, l'accident de la centrale de Tchernobyl. Toute cette semaine, en compagnie d'Alain Gilles Bastide, on va voir comment aujourd'hui on vit à Tchernobyl. À quoi ressemble Tchernobyl 30 ans après la catastrophe nucléaire? Dans un instant, le deuxième épisode. Et puis Tchernobyl qui inspire aussi bien les artistes que les metteurs en scène. Hier, on était avec Anaïs Tondeur. Aujourd'hui, en deuxième partie, on sera avec Stéphanie Loïc qui, elle, à partir des photos d'Alain Gilles Bastide et de ses textes et de son voyage à Tchernobyl, a imaginé une pièce de théâtre, un spectacle qui va se donner à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 avril à Arcueil, le lieu de l'autre. On en parle tout à l'heure en deuxième partie de l'émission.
Весна, где бывала весна, где бывала. Зимовала в лесе, зимовала.
Paysage de Tchernobyl, 30 ans après, avec Alain Gilles Bastide.
Что ты там робила, что ты там робила?
Deuxième épisode, les premiers pas. La rencontre avec la réalité d'un paysage. Alors quand vous arrivez, vous avez fait le voyage 20 ans après la catastrophe. Quand vous arrivez à Tchernobyl, qu'est-ce que vous voyez en premier?
On voit à Tchernobyl village, donc le village de Tchernobyl, on voit pas grand-chose en fait, parce que le village c'est des petites datchas qui étaient dans des bois. On est dans le bois. Et puis on voit que du bois, on voit pas de village parce que les maisons sont absorbées par le bois, sont mangées par le bois. Donc on voit des en se promenant des il y a un climat d'un bois bizarre parce qu'il y a des rues dans un bois, des maisons cachées. C'est un peu bizarre. Et puis après, il y a des endroits soi-disant nettoyés où sont parqués les équipes de nettoyage et d'entretien de la centrale. Disons des équipes qui tournent tous les 15 jours. 15 jours, ils travaillent. 15 jours, ils partent loin, se ressourcer. Et qui sont très, très parqués et déterminés. Et là, il y a un semblant de centre de village... non pas abandonné, mais avec très très peu d'activité. Je sais pas, comme ça, en faisant appel aux souvenirs, s'il y a une question de silence aussi, il y a beaucoup de silence, c'est comme un film sans son, quelque part.
Я уже прожил больше, чем трех
микроэтов. Соскоблили куски крыши. Рубероид, его нагружаете на носилки. Вот сюда подбегаете и за...
Le piège atomique, 1999, Владимир Черков.
Один набрасывает, двое носит. Когда прибежали сюда на участок, начинаете считать до 90. Один, два, три, четыре, до 90. Как только 90, бросаете инструмент и бегом назад.
Вопрос. Un véritable enfer pour ceux qui ont nettoyé le toit. Les petits soldats en combinaison et gants de caoutchouc couraient dans tous les sens. Mais les radiations étaient telles que tous les équipements brûlaient.
Quel air respiriez-vous alors quand vous êtes arrivé à Tchernobyl?
Un air qui, souvent... sèche le nez un peu et donne un goût un peu métallique dans la gorge. Ça, c'est je dirais pas qu'on arrive à Tchernobyl et on commence à avoir le nez sec et avoir du goût de zinc dans la bouche, mais quand on est dans des zones qui sont encore chargées, c'est assez immédiat.
Quels sont les premiers signes que vous allez apercevoir, Alain Gilles Bastide?
Ben ça, moi personnellement, je l'ai plutôt reçu quand on arrive un peu plus haut que du village de Tchernobyl à Pripyat, donc la ville qui a été construite sur la zone, sur la nucléaire, la plante nucléaire, si vous voulez, la NPP, et qui a été construite spécialement pour recevoir les travailleurs de la centrale, ou des différents, de toute la centrale. Une ville de 50 000 habitants, une ville moderne, construite en 74, si mon souvenir est exact. Et donc là, cette ville qui est à... Quand on monte sur les toits, comme je l'ai fait, on a l'impression qu'on va toucher le réacteur au bout du bras. Elle est à vol d'oiseau, à 1 km 800, soi-disant, exactement. Donc c'est tout à côté, on le voit là. Et ça quand ça a pété là... j'ai pu imaginer, parce que j'avais lu, je m'étais préparé à ça, et donc j'ai pu imaginer en pleine nuit, puis ça a pété à 1h23 de la nuit, l'explosion, les lumières, le genre de spray qui montait jusqu'à des kilomètres dans le ciel, de couleurs turquoise, blanc, bleu, turquoise, des couleurs jamais vues, soi-disant. Et les gens au balcon regardant ça, quoi, regardant ce qui se passait, montant sur les toits ou au balcon pour voir ce qui se passait. Au petit matin, des enfants prenant leur vélo et allant voir le plus près de la centrale, à quelques centaines de mètres, essayer de s'approcher le plus près possible du réacteur explosé. J'ai pu imaginer tout ça, et c'est là où je me suis trouvé embarqué dans... où j'ai pris conscience que j'étais sur le front d'une guerre, quoi. Que ça, j'avais pas capté vraiment dans ma préparation. Je suis sur le front d'une guerre, certes, où l'intensité de bombardement nucléaire, de toutes les poussières, de tout ce qui sortait du réacteur au moment où ça a pété, était beaucoup moindre, si vous voulez, était plus que des restes de ça, ou des choses qui passaient avec le vent. Mais j'ai pu imaginer tout de suite ça, et je me suis dit, mais c'est pas... Je suis là sur le front d'une guerre dont tout le monde est parti, et je me suis imaginé ces gens au moment où ça a pété, parce que la ville de Pripyat, 50 000 habitants, est évacuée en 36 heures, quand même. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une ville de 50 000 habitants est évacuée en 36 heures, quoi. Je veux dire, c'était bon là où les gens sont partis. Alors au départ, le matin, on leur a dit à tous mais il se passe rien, c'est un incendie. Voilà. Donc personne se protégeait. Il y avait un incendie, il n'y a pas besoin de s'affoler. Et ce n'est qu'à 2 heures de l'après-midi, quand bon, l'armée est arrivée, a commencé à encercler l'hôpital, ceci, cela. Bon, et là, les gens se sont dit, pour un incendie, ça fait quand même beaucoup de barouf, quoi. Donc, ils ont commencé à suspecter que c'était quand même peut-être un peu plus grave que l'incendie. Et très peu de temps après, on leur a dit, évacuation immédiate de la ville. Évacuation immédiate sans pouvoir emporter quoi que ce soit.
Ça, c'est l'histoire que vous avez reconstituée sur les lieux même du drame. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous avez vu?
Ben, ça ressemble ça ressemble à ça, ça porte ça. Ça porte l'absence. Moi, je dis dans ma trilogie sur le temps, c'est le temps. Là, c'est le temps confisqué. Autant à Paris, si vous voulez, le présent, c'est le temps en marche. Autant à La Havane, c'est le temps arrêté, si vous voulez. Là, c'est le temps confisqué. On sent, en tout cas, moi, j'ai senti cette confiscation. Tout d'un coup, le temps a été confisqué à 50 000 personnes là et à des tas d'autres après, un peu plus loin.
Нам, как я знал всю технику военную, все, нам дали баты.
Что это?
На базе танка впереди ковш, лопата, а сзади ковш, как юмазе вот у нас в Беларусь ходит, да? А это гусеничная.
Nous avons mis des feuilles de plomb sur la poitrine.
Просто говорили нам, что броня защищает.
On nous disait que le blindage nous protégeait.
Нету моих. Моих нет уже. я могу сейчас пересчитать по списку.
Beaucoup sont morts déjà.
Мне все списки есть.
Кого?
Всех своих людей.
Presque tous.
То есть многие умерли.
Да.
Très jeune.
Extrait d'une étoile nommée Absinthe, Tchernobyl, 10 décembre 2000, par René Farbet.
J'ai rencontré 5 liquidateurs en 90. Je les ai recherchés il y a 2 ans. Un est mort, l'autre est dans la chaise à roulettes, paralysé. Un autre, on était sur le point de l'amputer à cause de du diabète qui est induit également par la radioactivité.
Vladimir Tcherkov.
D'autres ont des maladies à 35 ans, de vieux de 70-80 ans. L'un d'eux, il était condamné. Il a une résistance incroyable. Les médecins étaient surpris qu'il ait survécu à cause de la dose qu'il a prise. Un de ses liquidateurs qui était électricien au moment où on construisait le fameux sarcophage. Il a accumulé une dose énorme qu'on n'a jamais voulu révéler parce que toutes les doses ont été censurées sur ceux qui ont travaillé sur ces centrales. Bref, il a survécu. Il est plein de maladies, cataractes, cerveau, tout le système cardiovasculaire, etc., abîmé. Il a épousé l'infirmière qui vivait dans une zone propre de la Biélorussie, qui n'était pas dans des zones polluées. Et il lui est né un fils avec du cancer dans le rectum, enfin, il est plein de maladies, simplement parce qu'il est le fils d'un liquidateur contaminé.
C'est une ville fantôme, c'est une ville où, alors qu'elle était complètement pillée, parce que les gens sont partis sans rien emporter, donc elle a été pillée très très vite, elle a été d'abord, en un premier temps, je dirais, quelque part auto-pillée, c'est-à-dire que des gens qui vivaient là sont, malgré l'interdiction, revenus chercher quelques trucs chez eux, enfin certains, et ensuite elle a été pillée complètement, donc les rideaux, les vitres, les meubles, tout ce qu'on... c'est une ville fantôme, oui, c'est une ville où des fois il y a des fenêtres, où il y a encore un rideau, par exemple, 20 ans après, mais même aujourd'hui, 30 ans après, ça doit être encore comme ça. Et là, le temps a fait son action, les intempéries, le climat, etc. Donc c'est l'usure de ces constructions des années 70, donc du béton qui a commencé à se pourrir.
Et vous, en tant que témoin, en tant que photographe, Alain Gilles Bastide, à quel moment vous allez sortir votre appareil photo et pour prendre quoi comme premier cliché des premières impressions de Tchernobyl ?
Mes premières photos à Tchernobyl, ça a été donc la ville de Pripyat, les différents lieux, la cinémathèque, les écoles. Et comme je recherchais la photo de cette...
Tout ça, bien sûr, vide, désert.
Vide, désert, avec des restes que l'on voit dans mon bouquin. Et je recherchais la poupée, donc les écoles, le jardin d'enfants, l'hôtel, l'immeuble le plus haut et l'immeuble plutonium, où je pouvais avoir dans dessus une vision panoramique de tout le... de toute la ville et la vue de la centrale à côté. Donc mes premières photos, elles ont été là, elles ont été à une première approche, je me souviens, à Tchernobyl Village, une première balade un peu dans le bois, mais là je cherchais un peu, c'était plus difficile de trouver le chemin des images, je dirais, dans Tchernobyl.
Qu'est-ce qui était difficile
dans Tchernobyl Village, c'était que il n'y a pas la trace de l'absence, la trace du temps confisqué est moindre ou n'existe pas comme elle existe à Pripyat, par la dimension, par l'étendue de la chose, etc., etc. Et on pourrait donner des photos de Tchernobyl Village, on peut trouver ça je sais pas moi, dans un bois où une vieille cabane de bois est abandonnée, etc. Donc après, ici en France ou ailleurs, dans une forêt quelconque. Et c'est ça qui moi m'a. Enfin, j'ai cherché, j'ai pris mes repères dans le village et je me suis dit, ben c'est peut-être ça qui est intéressant. Ça pourrait être n'importe où, quoi. Et cette idée que ça pourrait être n'importe où, qui au départ dans le village pour moi a été vécu photographiquement comme quelque chose de difficile, est devenu justement le terrain que j'avais trouvé pour faire mes images.
Merci beaucoup. Demain, suite de notre série en votre compagnie, Alain-Gilles Bastide. Je rappelle que vous êtes photographe reporter, que vous êtes allé à Tchernobyl. Paysage de Tchernobyl 30 ans après. Et demain, on va parler des gens, de vos premières rencontres avec ceux qui vivent sur place. À demain.
À demain. Merci.
Да была земля не свянцовная, да были люди не хрещеные, не веровали Господу Богу, а веровали лихому цмоку. Давали цмоку, что день по броку, что день по броку, по человеку. Ой, цардачку злото вбирае.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Bonjour Stéphanie Loïc.
Bonjour.
Vous êtes comédienne et metteur en scène. Je vous reçois ce matin en tant que metteur en scène puisque vous mettez en scène au théâtre l'expérience du voyage d'Alain-Gilles Bastide, notre invité de la semaine, pour une pièce qui a donc pour titre Tchernobyl Forever.
Oui.
Comment peut-on mettre en scène des atmosphères rendues par un reportage photo?
Alors, pour être clair, c'est il y a des textes du carnet de voyage d'Alain Gilles, Bastide, mais il y a aussi surtout des extraits de La Supplication, Tchernobyl, Chronique du monde après l'apocalypse, de Svetlana Alexievitch. Mm-hmm. C'est principalement le texte d'Alexievitch dans le spectacle.
Vous avez déjà mis en scène, d'ailleurs.
Absolument, avec 15 jeunes acteurs issus de l'EPSAD. Et là, il y a 3 jeunes acteurs issus de l'Académie de Limoges, de l'École supérieure de Limoges.
Donc on peut dire que Tchernobyl, pour vous, représente quelque chose de très important dans votre carrière, dans votre vie. Pourquoi ?
Quand j'ai monté la j'ai monté tous les textes de Svetlana Alexievitch, et quand j'ai monté La Supplication avec ces jeunes acteurs à Lille, il y a eu Fukushima. Et c'est vrai que, bon, pour moi, tout ce qui raconte le monde est important. Donc, Tchernobyl, bien évidemment, c'est des questions abyssales, puis ces témoignages absolument incroyables d'Alexievitch. Et il y a eu Fukushima qui a éveillé, je dirais, les consciences de ces 15 jeunes gens. Donc, il y a 2 ans, une actrice, Aurore James, qui est dans le spectacle, m'a proposé de faire la lecture des textes du carnet de voyage d'Alain-Gilles Bastide. Donc, j'ai rencontré Alain-Gilles, j'ai vu ses photos absolument admirables, et puis j'ai fait une lecture avec des textes aussi d'Alexievitch, avec 2 actrices, Aurore James et Elsa Ritter. Et ça a été une chose incroyable, parce qu'on s'est trouvé devant un parterre de scientifiques venant du monde entier, principalement des Japonais, parlant pas français et parlant de Fukushima. C'était extraordinaire de questionnement. C'est pas pour faire peur au monde, tout ça, c'est pour se questionner. Et donc, l'anniversaire de Tchernobyl arrivant, là, le 26 avril prochain, j'ai décidé de faire un spectacle à partir de ces textes-là et des textes, donc, d'Alexievitch, avec un acteur en plus, Vladimir Barbera. C'est un spectacle qui est chanté, chorégraphié, avec des acrobaties et des textes d'Alain-Gilles Bastide et de Svetlana Alexievitch.
Alors, l'anniversaire, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 26
Absolument.
Avril, 30 ans plus tard. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez il y a 30 ans, quand on a appris qu'il s'était passé quelque chose en Russie, en Ukraine, à l'époque de l'URSS. Est-ce que tous ces moments-là sont présents dans votre esprit aujourd'hui,
Honnêtement, je me souviens pas vraiment du 26 avril 86. Je me souviens parfaitement que on a dit que le nuage s'était arrêté à la frontière en France, donc ça n'avait pas du tout, il y avait rien à craindre, on pouvait tout à fait manger des champignons et voilà. Ça, je m'en souviens. Je me souviens aussi que je suis allée faire un spectacle donc en Biélorussie. J'étais invitée par le Théâtre National Biélorusse. Et là, tous mes amis, c'était 2 ans après, m'ont dit « Ouh là là, n'y va pas, c'est irradié, il faut pas y aller, ou alors faut pas manger de yaourt, faut pas manger de laitage, faut pas manger de champignons, etc. » Et j'y suis allée. Je suis pas restée très très longtemps, hein. Je suis restée qu'un mois et demi. Mais voilà, je pense qu'on n'avait pas conscience, enfin moi en tout cas, je n'avais pas conscience, comme j'ai conscience maintenant, de ce qu'est Tchernobyl, puisque je me suis beaucoup beaucoup informée après. Donc maintenant je sais ce qu'est Tchernobyl, j'ai vu beaucoup de reportages, je sais que le deuxième sarcophage n'est pas fait, et je sais que c'est une question fondamentale pour l'être humain. Comment, la nature.
Comment on choisit les témoignages, les textes pour faire un spectacle de théâtre?
Alors, dans les photos d'Alain Gilles Bastide, il y a des témoignages aussi dans le DVD qu'il a fait d'un liquidateur. Donc j'ai pris des témoignages de liquidateurs, des gens qui sont tous morts bien évidemment, qui ont sauvé le monde. Après j'ai pris aussi principalement des témoignages des femmes, des mères qui ont eu des enfants avec des difficultés terribles et des enfants qui ont eu des cancers ou des malformations. Parce que pour moi, c'est Tchernobyl Forever, c'est ça. Se souvenir que ça va passer des générations et qu'on ne doit absolument pas se dire que cette catastrophe est terminée.
Mais ça reste un spectacle.
Bien évidemment.
Donc votre choix est sans doute dicté par une envie d'installer une dramaturgie, de faire intervenir aussi bien le son, la voix, le texte, la chorégraphie, la musique. Comment on travaille quand on a justement un sujet comme Tchernobyl?
Alors,
est-ce qu'on travaille déjà avec une idée de transmettre un message, de sensibiliser un public?
Forcément. Je pense qu'on travaille pas comme ça dans artistiquement, puisqu'on travaille comme on travaillerait dans n'importe quel autre spectacle, sauf qu'effectivement, ces témoignages ne peuvent pas être joués par des acteurs, ils doivent être transmis. On peut pas jouer des liquidateurs quand on est un acteur. On peut pas jouer quelqu'un qui a été irradié. On doit raconter. À partir de là, on travaille sur un autre spectacle. Mais c'est un travail très choral. Donc les paroles sont partagées entre les trois acteurs. C'est très, très, très choral. Donc il y a une distance énorme. C'est chanté. Il y a beaucoup de chants. Et il y a même des manières de dire le texte qui sont en dehors de l'acteur, en dehors de la manière classique de jouer la comédie. Vous voyez, et puis c'est très graphique, c'est très à distance, il y a des acrobaties aussi, c'est très montré à distance, et il y a un travail de lumière et très important avec que Gérard Gillot fait avec moi, parce que c'est très très important que de montrer la beauté aussi de ça. Ce sont des revenants, ce sont des âmes errantes, ce sont des gens morts tous.
Mais cette question qui s'est posée déjà à l'époque où il fallait filmer Tchernobyl, la question est comment filmer quelque chose d'invisible, un danger qui est là, très présent, mais qu'on ne peut pas représenter, qu'on ne peut pas incarner.
Alors, vous avez raison, c'est exactement d'ailleurs dans les témoignages d'Alexievitch, c'est ce que racontent les gens, les paysans qu'on a emmenés et qu'on a dit faut sortir de là, faut absolument sortir de vos maisons, faut sortir de la zone. Ils disaient mais on voit rien, il ne se passe rien, la radiation on n'entend pas, on ne la voit pas, c'est pas une guerre quoi, c'est une guerre, on voit l'ennemi en face, mais là c'est une guerre invisible. Donc je pense que tout le travail qui est fait avec les acteurs est sur ces radiations, sur cette manière de dire le texte qui est, je trouve pas tout à fait les mots, mais qui est du domaine de l'invisible. Et puis il y a une bande son qui raconte aussi ça. Il y a un son fait par Jacques Labarrière qui est des crépitations, des ondulations du son qui sont ce qu'on pourrait entendre déformé. Voilà, donc on travaille là-dessus. On travaille sur la manière de transmettre des paroles de gens qui, eux, ont vécu cette catastrophe, ne s'en rendant pas forcément compte ou s'en rendant compte quand c'est des générations après.
Tchernobyl Forever, donc c'est le titre du spectacle. Et effectivement, les spectateurs, avant de voir le spectacle, ou après, ou les deux en même temps, peuvent voir les images de Tchernobyl aujourd'hui, c'est-à-dire le carnet de voyage d'Alain Gilles Bastide.
Oui, il y a l'exposition, il y a 12 de ces photos qu'il a fait faire sur bâche, qui seront donc accrochées dans le hall d'Anigra à Arcueil, Anigra la fabrique, et dans des espaces d'Anigra. Donc il y a un voyage de regard, oui, ou avant ou après, comme les gens veulent, mais c'est des photos très importantes et très impressionnantes. On a joué là à la Martinique et on avait mis l'exposition dans le hall. Et je voyais les gens s'arrêter devant. C'était très fort. Ils reculaient sur certaines photos. Certaines photos sont plus anodines, mais certaines photos sont terribles. Des malformations sur les enfants, c'est terrible, quoi. Donc voilà, c'est entre la beauté de ce lieu, parce que la nature a repris le dessus, et puis des images terribles.
Et pourtant, c'est pas une image terrible que vous avez choisie parmi les photos de Alain Gilles Bastide. C'est pas une image terrible, c'est une image plutôt innocente que vous avez choisie, aussi bien pour l'affiche du spectacle que pour l'émission d'aujourd'hui, puisque je vous avais demandé de choisir une photo pour la commenter. Et voilà.
C'est une
Stéphanie
poupée.
Stéphanie Loïc, c'est une poupée.
C'est une poupée.
C'est quoi l'histoire de cette poupée?
Je crois que c'est une poupée abandonnée que Alain Gilles a trouvée. Ça parle des enfants, hein, Tchernobyl Forever. Ça parle de ceux d'après. C'est une poupée trouvée là-bas sur la zone qu'il a photographiée d'un enfant qui a laissé sa poupée irradiée.
Voilà, le spectacle commence aujourd'hui. Ça se passe où d'ailleurs?
Ça se passe à Anigra, le lieu de l'autre, à Arcueil. C'est une magnifique fabrique. C'est au RER La Place, donc c'est près de Paris, c'est Paris. Et c'est un lieu magique avec des gens exceptionnels, plein d'artistes, de toutes disciplines confondues. Et moi, je suis artiste associée dans cette fabrique de théâtre depuis des années. C'est des gens très très militants et très ils ont fait toute une opération sur les migrants dernièrement, et c'est des gens très impliqués.
Et ça se joue jusqu'au samedi 30. Merci beaucoup d'être passé ce matin pour nous en parler, Stéphanie Loïc. Notre semaine consacrée à Tchernobyl en compagnie d'Alain Gilles Bastide continue jusqu'à vendredi. Je vous laisse faire le générique de fin.
Ah oui. C'était un autre jour est possible. Une émission de Toafik Hakem préparée avec... J'ai mal dit.
Mais non, vous l'avez dit.
Préparée avec la collaboration d'Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. On peut s'abonner au podcast de cette émission en passant par le site franceculture.fr.
Quand on n'est pas lève-tôt, par exemple.
Par exemple. Un autre jour est possible et réalisé par Thomas Duterre. Avec aujourd'hui à la technique, Claude Niort.
Oh, merci beaucoup, Stéphanie Laïc. On se retrouve demain à la même heure. Passez une bonne journée sur France Culture.